Bonjour à toutes et à tous, Didier Delattre sur IDFM pour un nouveau rendez-vous conte. Des histoires, des récits, des petits points de culture étonnants, ignorés, oubliés, qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes, et que je vous raconte en suivant un ordre alphabétique un peu aléatoire, je l'avoue, au gré de l'actualité ou tout simplement de mes envies.
L'alphabet grec est composé de 24 lettres, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi et oméga. Il ne vous reste plus qu'à apprendre l'alphabet grec par cœur jusqu'à savoir le réciter à l'envers.
Aujourd'hui, rendez-vous compte consacré comme d'habitude à une lettre de l'alphabet, ou plutôt à trois lettres. Tiens, et en plus, trois lettres de l'alphabet grec. Étrange, non? Eh bien, vous verrez. Commençons par les lettres alpha et oméga, première et dernière lettre grecque. Le début et la fin. Vous vous souvenez peut-être d'Oléane dont je vous ai raconté l'histoire il y a quelques mois. Cette histoire, toujours disponible en podcast sur la page de l'émission. Oléane, héroïne de ma nouvelle Train de Rennes, parue dans mon recueil Les Contes de la Forge. Oléane, petite fille imaginaire de la reine Hortense, belle-fille de Napoléon Ier et reine de Hollande, Hortense, reine aussi durant quelques années, si on peut dire, de Saint-Leu-la-Forêt, où elle possédait un château. Oléane, revenue à Saint-Leu un matin de 1873 pour rejoindre sa grand-mère dans le tableau très fleuri, souvenir de la reine Hortense, peint en 1856 par Jean-Marie Régnier. Un tableau accroché pour l'éternité dans le hall de ce château de Saint-Leu qui pourtant n'existait déjà plus depuis bien longtemps au moment de mon histoire. Train de Rennes est mon histoire préférée, pas seulement parce qu'elle a obtenu le prix littéraire du Val d'Oise en 2001. C'est que, comme beaucoup de personnages littéraires, Oléane a en effet vraiment existé. Dans une autre vie, à une autre époque, sous un autre prénom. Mais un prénom dont les sonorités trouvent leur écho dans celui de mon héroïne. Oléane, c'est l'histoire d'une passion commune, inoubliable, indépassable, comme on les vit à l'adolescence. Une passion qui m'a fait transformer, bien des années plus tard, une simple lycéenne, en petite fille de Rennes, Léane donc, et qui m'a fait imaginer une explication bien romantique, un départ sans retour, ni explication. La littérature sert parfois à donner du sens à la réalité quand celle-ci reste en point de suspension.
Rien qu'un dimanche au bout de la semaine, et de l'encre bleue plein les mains, et des récréations qui traînent au milieu des journées sans fin. Parfois tu m'écris une lettre où tu ne signes que d'un point. Ça met du soleil à ma fenêtre, mais pour toi ça ne résout rien. Je te réponds, ma lycéenne, moi qui ne suis plus lycéen. Tu veux quelqu'un qui te comprenne. Je te comprends, j'essaie au moins.
Mais quel rapport avec nos deux lettres grecques, alpha et oméga? Eh bien, il a suffi que le O dans le vrai prénom d'Oléane se transforme en A pour faire sortir ma belle héroïne de l'histoire où je l'avais déposée et conservé dans l'écrin de mon recueil comme l'un de mes plus beaux souvenirs. L'alpha m'a ainsi ramené oméga. Le début et la fin, le passé et le présent, se sont rejoints. Rendez-vous compte.
Alpha oméga, alpha oméga, le dieu de tout temps qui conduit mes pas.
Mon héroïne, continuant à l'appeler Oléane, Oléane a décidé de quitter le tableau fleuri où je lui avais fait rejoindre sa grand-mère, la reine Hortense, dans son château de Saint-Leu. Oléane n'a bien sûr pas vieilli, elle est fidèle à mon souvenir. Et elle n'a eu aucun mal à se faire passer pour une jeune fille de notre époque. Et puisque c'est le moment de l'année où les jeunes gens choisissent les études qu'ils vont entreprendre, eh bien, Oléane a sollicité son inscription dans une faculté. En quelle discipline ? La psychologie. Pas surprenant, il y a un siècle déjà, elle fréquentait les cercles qui s'intéressaient aux mystères de l'esprit et des comportements atypiques. Quelle université a-t-elle choisi ? Tiens, celle où j'ai moi-même étudié la psycho, elle ne le sait pas, avant de finalement m'orienter vers la littérature. Tiens, encore un de ces signes que, selon elle, je vois partout et que j'interprète plus qu'il ne faut.
Je suis devant un mur blanc, mais je sais que tu es présent, alors fais-moi un signe, apparais, je t'attends. Je ne te demande rien, rien qu'un seul geste de la main, alors fais-moi un signe, montre-moi le chemin.
En parlant de signes, eh bien, figurez-vous que si oméga est bien la dernière lettre de l'alphabet grec, elle est précédée, devinez, de la lettre psi. Alpha, oméga, psi, ces trois lettres grecques sont décidément liées par l'amour, l'esprit et l'écriture. Tu as donc choisi une de ces universités parisiennes qui avait été au cœur du mouvement de la jeunesse estudiantine lors des événements de mai 68.
À la faculté de Nanterre, à la suite de l'agitation de groupes d'étudiants, les cours avaient été suspendus, ce qui équivalait à une fermeture. Le lendemain, à 17h, la police était appelée à la Sorbonne. La décision déclenchait la colère des étudiants. C'est l'affrontement. Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute volent. 10 000 étudiants sont dans les rues, engagés dans une lutte acharnée avec les policiers.
Alors, pour toi, Oléane, voici quelques expériences que j'ai découvertes au début de mes études de psycho et que je n'ai pas oubliées. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans ces années post-68, encore marquées par l'esprit de révolte de la jeunesse, ces expériences interrogeaient le rapport de l'individu à l'autorité, souvent présenté comme tyrannique, injuste, insupportable. Tout d'abord, l'expérience de Rosenham, qu'un internaute, Jordan X, présente dans sa vidéo hors sujet, de façon peu universitaire, dirons-nous, mais fidèle à la réalité. En 1973, le psychologue américain David Rosenham remet en cause la validité du diagnostic psychiatrique.
Alors, l'expérience, elle est toute simple. Elle consiste à faire interner des personnes en bonne santé mentale dans des hôpitaux psychiatriques. Des personnes volontaires, bien entendu, qu'on appelle donc les pseudo-patients. Au total, il y a 8 individus qui ont pris part à l'expérience. Et ces gens-là, donc, pour se faire interner, ils devaient simuler des hallucinations auditives, quoi. Ils ont appelé les hôpitaux psychiatriques et devinez ce qui s'est passé. Eh bien, tous les pseudo-patients, ils ont été tous internés du premier coup dans 12 hôpitaux psychiatriques à travers tous les États-Unis. Truc de fou. Alors, ils sont restés enfermés en moyenne 19 jours. Hein. 7 jours pour la période la plus courte et 52 jours pour la période la plus longue. Et ils ont tous été libérés avec un diagnostic de schizophrénie en rémission. Alors que les mecs n'étaient pas fous du tout. Hein. Pourtant, une fois à l'intérieur, hein, ils avaient comme consigne de se comporter tout à fait normalement. Hein. D'ailleurs, ils prenaient des notes à la vue de tout le personnel psychiatrique. Des notes qui concernaient directement l'expérience, quoi. Mais le personnel médical interprétait chaque comportement comme une manifestation de la maladie mentale. Mais je crois que le pire dans tout ça, c'est quand ils ont souhaité mettre fin à l'expérience, le personnel médical a refusé leur libération. Ils voulaient plus les laisser sortir, quoi. Du coup, tu vois, les gars, là, ils rigolaient plus des masses, là. Là, ils ont dû faire appel à un avocat pour les faire sortir de là. Hein.
Alors, ils ont tous été libérés, certes, mais avec un diagnostic de schizophrénie en rémission. Rendez-vous compte. Seconde partie de l'expérience, Rosenham demande au personnel d'un hôpital psychiatrique d'identifier de faux patients, de faux malades mentaux si vous voulez, dans un groupe qui, justement, n'en comportait pas. Eh bien, devinez, le personnel soignant a détecté comme imposteur un grand nombre de vrais malades. Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik témoigne d'ailleurs de la situation déplorable dans les hôpitaux psychiatriques d'avant mai 68.
Je suis un archéopsychiatre, c'est-à-dire que j'ai eu un diplôme d'avant mai 68, où on n'apprenait rien, rien du tout. Quant à la psychiatrie, elle n'existait pas. Et quand mai 68 nous a donné la parole, et a donné la possibilité de poser le problème autrement, là, j'ai commencé à me sentir chez moi.
L'expérience de Rosenheim est considérée comme une critique importante des diagnostics et de la déshumanisation dans les hôpitaux psychiatriques. Il dénonce la tendance des soignants à s'accrocher à un diagnostic initial, puis à interpréter toutes les données suivantes pour les faire correspondre avec ce diagnostic. Alors, bien entendu, la méthodologie et les résultats de l'étude ont été discutés, voire contestés, et puis c'était en 1973, il y a bien longtemps, mais la tendance à juger les gens sur la première impression, le premier symptôme, le premier post sur les réseaux sociaux, a-t-elle pour autant disparu? C'est pas sûr.
Prise d'assaut par les CRS, les barricades brûlent. Derrière chacune d'elles, les étudiants résistent avec tout l'acharnement de leur jeunesse et de leur conviction. C'est une véritable bataille qui va durer 4 heures. Les grenades lacrymogènes, dont on parlera longtemps, explosent. Et tout au long de la nuit, les secours aux blessés poseront un grave problème.
Léane, maintenant que tu connais l'expérience de Rosenheim, il faut absolument que tu visionnes ce film qui, 3 ans après l'expérience en question, a en quelque sorte illustré et complété cette réflexion sur l'institution psychiatrique. Je veux parler de Vol au-dessus d'un nid de coucou, un film de Milos Forman datant de 1976, extrait de la bande-annonce.
Il a 38 ans. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Pour les médecins, il est fou. Jack Nicholson et Matt Murphy. Il a enfreint tous les règlements.
Ça n'a qu'à changer, ça évite l'ennui.
Il défie les autorités.
Ah, c'est pas vrai, vous n'allez pas me faire ce coup-là. Vous n'allez pas me faire ce coup-là.
Il serait dangereux.
Il défie l'ordre établi. Il s'imposa à un groupe d'hommes brimés, bridés, brisés, et leur redonna le goût de vie et le goût de rire. Il leur rendit ce qu'ils avaient oublié, leur dignité.
Merci, Mac. Merci.
McMurphy défie donc l'abus de pouvoir et l'aliénation qui règne dans cette institution psychiatrique, symbolisée par la terrifiante infirmière-chef, Ratched. Et Murphy va le payer cher, très cher. Dans un article du 26 juillet 2022, Télérama précise que les scènes de violence sur les malades ont été tournées dans un authentique hôpital psychiatrique, avec de vrais malades, ça fait peur quand même, et l'article conclut, je cite, « Ce pamphlet emblématique des années 70 n'a pas pris un coup de vieux. 47 ans après sa sortie triomphale et ses 5 Oscars, il tient encore remarquablement l'électrochoc. » Le mot n'est évidemment pas choisi au hasard. Tu sais, Oléane, ses expériences et ses films datent des années 70. Quelques années après ces fameux événements de mai-juin 68, au cours desquels les universités ont été les premières à se révolter contre l'autorité, toutes les autorités, à Nanterre en particulier, déchaînant ainsi la fureur de quelques réactionnaires de l'époque qui reprochent aux étudiants d'être des privilégiés et de se révolter sans risque, contrairement à la génération de la guerre et de l'occupation. C'est le cas de Philippe Clay, extrait de sa chanson « Mes universités ».
Mes universités, c'était pas Jussieu, c'était pas Censier, c'était pas Nanterre. Nous, quand on contestait, c'était contre les casqués qui défilaient sur nos Champs-Élysées. Quand on écoutait l'ombre dans nos planques sur les ondes, c'était pas les Beatles qui nous parlaient. Mes universités, c'était le pavé de Paris, le pari de la guerre. On parlait peu de marxisme, encore moins de maoïsme. Le seul système, c'était le système des comme débrouille-toi, des comme démerde-toi, pour trouver de quoi bouffer et te réchauffer.
Autre expérience datant des années 60, encore plus terrifiante peut-être, l'expérience menée par le psychologue américain Stanley Milgram. Expérience qui fera autorité, si je puis dire.
Conduite à l'université de Yale, aux États-Unis, cette expérience a permis de tester des individus ordinaires, tous d'accord pour aider la science à mettre au point un programme sur la mémoire. Deux sujets étaient convoqués. L'un devait retrouver une bonne réponse sur une liste de mots qu'il devait retenir en une minute. Installé dans une petite pièce, il était attaché à une chaise. À sa gauche, un bracelet électrique lui enverrait des punitions à chaque erreur. Plus il se tromperait, plus violent serait le choc électrique. Le deuxième homme était installé dans une autre pièce. C'était à lui de lire les questions et d'infliger les punitions. Le choc électrique. Il n'y avait aucun choc. Les cris étaient enregistrés. L'homme attaché était un acteur. Le sujet de l'expérience était le questionneur. Jusqu'où allait-il obéir ? À la stupéfaction des chercheurs, 62% des gens se soumettaient aux ordres et administraient des chocs ultimes malgré les hurlements de douleur de l'acteur. Stanley Milgram démontra ainsi que tout individu peut commettre les pires atrocités quand l'autorité qui lui ordonne de le faire est à ses yeux légitime. Continue, please.
Comme en écho à l'expérience de Milgram, en 1979, Henri Verneuil tourne son film I, comme Icare. C'est la transposition dans un pays imaginaire du meurtre du président John Fitzgerald Kennedy en 1963 à Dallas. En fait, plusieurs scènes ont été tournées à Cergy-Pontoise, dont les tours modernes évoquaient facilement celles de Dallas. Je le sais bien parce que plusieurs de mes camarades étudiants ont préféré sécher les cours pour jouer les figurants dans le film et toucher quelques dizaines de francs de l'époque. Dans l'histoire, Yves Montand interprète le rôle du procureur Henri Volney qui s'obstine à découvrir les puissants ordonnateurs de l'assassinat du président. Son enquête le mène à un laboratoire de psychologie où un professeur mène une expérience. Devinez laquelle ? Eh bien, l'expérience de Milgram, évidemment, sur l'apprentissage de la mémoire par la douleur. Et depuis le bureau du professeur, le procureur assiste donc en direct à la torture qu'inflige le « questionneur » entre guillemets au « questionné », incapable de retenir les listes de mots qu'on lui a récités et qui finit par supplier qu'on arrête l'expérience. Extrait de la scène.
Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'obéissance de M. Despol. Sa soumission à l'autorité. L'autorité pour M. Despol, c'est le cadre de cette université, le professeur Flavius, moi-même, et nos blouses blanches qui sont les symboles de cette autorité. Nous venons de lui imposer un code de punition à infliger à une victime qui ne lui a rien fait. Jusqu'où va-t-il obéir à cet ordre imbécile et révoltant que nous venons de lui donner ? Voyez-vous, il est évident qu'à partir d'un certain moment, M. Despol va devoir affronter un problème. D'un côté, sa soumission à l'autorité, exécuter la mission qui lui a été confiée. De l'autre, sa répugnance à faire souffrir sa victime. Despol va être progressivement secoué par un conflit intérieur presque insoutenable. Pour se tirer de cette situation, il devra rompre avec l'autorité et désobéir. C'est l'instant de cette rupture que nous étudions.
Si ce conflit lui est tellement insupportable, pourquoi ne s'arrête-t-il pas ?
S'il s'arrête, il reconnaît implicitement qu'il a eu tort d'aller jusque-là. En continuant, il justifie tout ce qu'il a fait jusqu'à présent.
J'en ai assez. J'ai trop mal. Je ne vais plus répondre.
Qu'est-ce qu'on fait ? Considérez son silence comme une erreur et envoyez-lui 180 volts.
Il va pas bien du tout, ça risque de mal tourner.
Je prends sur moi toute la responsabilité.
Si vous prenez la responsabilité... C'est intolérable. Même au nom de la science, vous n'avez pas le droit de faire ça. Aucune loi ne vous
l'autorise. Gardez votre calme, monsieur le procureur.
Ces appareils sont entièrement factices. Il n'y a absolument aucun courant électrique entre le pupitre de monsieur Despol et la chaise de monsieur Rivoli. Et monsieur Despol n'en sait rien. Monsieur Rivoli a beaucoup de talent, n'est-ce pas ? Il fait partie de notre équipe.
Monsieur le procureur, vous, c'est à 180 volts que vous avez réagi.
À la fin de l'extrait, le professeur fait assez perfidement remarquer au procureur que lui, le procureur, s'est révolté seulement au moment des 180 volts infligés fictivement, heureusement, à l'acteur jouant le questionné. Le professeur constate que, face à ce qui incarne l'autorité, ici scientifique, 63% des sujets sont obéissants, c'est-à-dire qu'ils acceptent totalement le principe de l'expérience et vont pour certains jusqu'à infliger des décharges de 450 volts. Alors, le procureur conclut, je cite, « Ce qui signifie que dans un pays civilisé, démocratique et libéral, les deux tiers de la population sont capables d'exécuter n'importe quel ordre provenant d'une autorité supérieure. » Ainsi, des gens ordinaires deviendront facilement des bourreaux s'ils sont convaincus qu'il faut torturer. Et, une fois placés devant leurs responsabilités, ils les fuiront en disant qu'ils n'étaient que des exécutants Rappelons que, depuis la Shoah et les procès de Nuremberg après la guerre, on n'en finit pas de se demander comment des êtres civilisés ont pu exterminer des millions d'hommes, de femmes et d'enfants sans état d'âme, tout simplement parce qu'ils obéissaient aux ordres. Mais vois-tu, Oliane, il y avait aussi ces hommes et ces femmes qui refusaient d'obéir aux ordres, à ceux des chefs, à ceux des dieux. Ils étaient sans dieu ni maître. Comme le chantait dans ses années 70 également Léo Ferré, dont les chansons et les concerts rythmaient notre passion d'alors.
Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître.
Encore une preuve des dangers de l'autorité qu'une institution peut conférer à des individus « normaux », entre guillemets équilibrés, l'expérience de Stanford, toujours en 1971 décidément. Le professeur Philippe Zimbardo fait aménager un quartier de détention, plus vrai que nature, dans les sous-sols de l'université de Stanford. Puis, on recrute 20 volontaires, et à la suite de tests, 8 seront les « gardiens », entre guillemets, des 12 « prisonniers », entre guillemets. Alors, on écoute ce que cela donne. Reportage de Radio-Canada datant de 2021.
Été 1971, en Californie. 9 jeunes hommes sont arrêtés, fichés et enfermés au sous-sol de l'université Stanford, transformés pour l'occasion en prison. C'est le début d'une des plus célèbres expériences en psychologie. Elle devait durer 2 semaines. L'objectif du professeur Philippe Zimbardo est d'étudier les comportements en milieu carcéral.
Les gardiens doivent montrer qui est le patron et faire preuve d'autorité envers les prisonniers.
Il recrute des étudiants en leur offrant $15 par jour et les sépare en 2 groupes. Les prisonniers sont dépouillés de tous leurs droits. Ils deviennent de simples numéros. Les gardes, eux, préservent leur anonymat grâce aux costumes et aux lunettes. Tous les participants sont libres d'agir comme ils le veulent. Rapidement, l'expérience dérape. Les prisonniers insultent les gardes qui répliquent par des châtiments. La cruauté s'intensifie et devient hors de contrôle. Le cauchemar ne durera finalement que 6 jours.
Nous avons dû arrêter l'expérience, car ce n'était plus une expérience. Nous avions créé une prison et des gens souffraient.
Autre étude célèbre, peut-être ma préférée, celle-là dépasse le cadre d'un laboratoire, d'un hôpital psychiatrique ou d'une prison factice. Au début de l'année 1954, presque par hasard, le psychosociologue américain Léon Festinger et ses collègues de l'université de Minneapolis apprennent qu'une petite secte locale proclame que, selon un message envoyé par des extraterrestres, la fin du monde aurait lieu le 21 décembre. Et bien entendu, seuls ceux qui auraient rejoint la secte seraient sauvés par les extraterrestres.
Il y a 50 ans, on a peut-être reçu un message extraterrestre. Vous avez probablement déjà entendu parler du signal WOW, un bref signal qui a été capté par un radiotélescope américain en 1977. Mais savez-vous ce qui le rend si particulier et pourquoi un demi-siècle plus tard, on s'interroge encore sur son origine ?
Arrive la date fatidique, et bien sûr, la fin du monde n'a pas lieu. C'est exactement ce qu'attendaient les étudiants de Festinger, infiltrés dans la secte depuis quelques mois. Ils allaient pouvoir étudier, minute par minute, comment des individus se comportent quand leurs croyances sont indiscutablement démenties par les faits. Ils font alors une grande découverte. Après un premier moment de stupeur et de grand désarroi, les membres de la secte interrogent leur maître à penser. Et, après quelques instants de réflexion, celui-ci déclare que la secte a réussi à éviter la fin du monde par la seule force de ses prières. Elle doit donc sortir de l'ombre et propager la bonne nouvelle. Et figurez-vous que dans les jours qui suivent, et bien que la fin du monde n'ait pas eu lieu, le groupe voit ses effectifs multipliés par 10. Voilà le paradoxe. Le démenti de la croyance n'anéantit pas la croyance. Il la renforce au contraire. Pour Festinger, cette expérience exceptionnelle démontre ce qu'il va appeler la théorie de la dissonance cognitive. Il y a chez tous les individus, une tendance très générale à chercher à réduire par tous les moyens les contradictions qu'ils peuvent ressentir entre les faits réels et la façon dont ils se les représentent. Bien souvent, nous avons au contraire tendance à adapter la réalité à nos croyances ou à ne chercher à ne retenir que les faits qui les confortent. Par exemple, on peut se mettre à croire qu'un personnage littéraire peut quitter l'œuvre où il a vu le jour pour se présenter à celui qui l'a imaginé et faire revivre ce qui n'est plus. On a donc tort de se moquer des gens qui croient à la fin du monde. Ils font parfois faire des progrès inestimables à la connaissance des mécanismes de l'esprit humain, conclut un article du Monde des Sciences de 2013 consacré à cette belle histoire. Voilà, Oléane, ces quelques expériences célèbres de psychologie prouvent, mais tu le sais déjà, que les comportements humains ne sont pas toujours, pas souvent, raisonnables, c'est-à-dire gouverné froidement par la raison. Nos réactions, nos sentiments, nos émotions sont plus qu'on ne le croit ou qu'on ne le veut dictées par notre cœur. C'est-à-dire ces forces puissantes, ces souvenirs anciens, ces expériences premières enfouies au fond de notre inconscient qui ressurgissent lorsque des signes venus de la nuit des temps et des hommes ravivent les passions assoupies. Il suffit par exemple que l'alpha rejoigne l'oméga. Maintenant, il va me falloir te replacer dans ton écrin de mots, dans l'histoire écrite dont tu t'es échappé, comme pour me retrouver le temps d'une ou deux saisons. La simple lycéenne redeviendra petite fille de Rennes. Être de sang ou seulement de mots, humain ou personnage, malgré nos efforts désespérés, nos promesses, nos coups de gueule, malgré les signes, nous subissons notre destin, quoi qu'il arrive. Notre existence n'est que sable mouvant. Oléane, tu sais que je vais espérer et t'attendre, attendre que tu reviennes me parler, ne serait-ce que quelques minutes. Toi si proche, toi si lointaine à nouveau. Mais il n'y a parfois pas de distance plus infranchissable que celle de la proximité. Et, de toute façon, je sais bien que, comme le chantait John Lennon, le rêve est fini. Dream is over. Dernier mot cependant, Oléane, toi qui crois que le temps est une ligne droite, alors qu'il est une boucle qui se reforme, qui se referme, toi qui me dis que tu n'es pas celle que je revois en toi, toi qui pourtant, eh bien, celle-là, tu te rappelles ce morceau de piano que tu m'as fait découvrir un jour avec Alice au Pays des Merveilles, ce morceau de piano qui a été le générique de nos rendez-vous comptes de l'année dernière, eh bien, comme le temps, tu vois, il se rappelle à toi, à moi, car il nous vient de la nuit des temps et des hommes, depuis que l'humanité vit, respire et aime sans raison. Fais ta vie, ne m'oublie pas. Je te garde quand même quelque part du côté des contes de la forge, chez nous, chez toi. Rendez-vous compte, une émission conçue, réalisée, présentée par Didier Delattre sur IDFM 98. À la semaine prochaine, même heure, même adresse,